Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Alexandre Dulaunois, qui est le fondateur de la conférence hack.lu. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Guillaume Prigent.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Alors, moi, je suis chercheur en sécurité informatique pour le Circle. Alors, le Circle est un CERT au Luxembourg qui s'occupe du secteur privé du secteur communal en Luxembourg. Et en fait, je m'occupe principalement d'incidents, je fais de l'analyse de malware, du reversing, etc. Et depuis plusieurs années, on organise une conférence qui s'appelle hack.lu.
Alors justement, cette conférence a lieu depuis combien de temps exactement ?
Alors, c'était la 11e édition, donc ça fait plus de 11 ans que la conférence existe. Et on a commencé ça un peu au hasard, mais pour une raison particulière. C'est une raison assez égoïste, en fait. Avant, on allait à la DEF CON, on allait à d'autres conférences, et on s'est rendu compte qu'on voyageait beaucoup, mais souvent les speakers ne venaient pas nous voir et on n'avait pas les conférenciers sur place. Donc, le côté égoïste de la chose, c'était qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire venir les speakers au Luxembourg ? C'est un petit pays, mais on a pas mal de capacités, donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas avoir tout le monde qui vienne sur place et faire une conférence. Et il y a 11 ans, on a fait une première conférence où on avait moins de 100 personnes, et on avait fait un tout petit CTF avec 4 équipes, donc c'était vraiment très très petit au départ en fait. Et la conférence a grandi, on est maintenant à la 11e édition, 457 personnes ont participé à la conférence, on était sold out cette année, on a... plein de speakers, on a près de 40 pays qui sont présents, on a beaucoup de gens qui sont d'Europe, des États-Unis, mais aussi du Moyen-Orient, Inde, Japon, Amérique du Sud, etc.
Alors qu'est-ce qui caractérise en fait, qu'est-ce qui fait la particularité de cette conférence ?
Ben, en fait, on a toujours été un peu familial, donc c'est souvent ce qu'on aime bien chez nous au niveau de la conférence, c'est qu'on a garder un peu la conférence à une taille humaine. Donc, tous les gens, notre objectif aussi, c'est que les gens se retrouvent. Donc, c'est pas uniquement la conférence en tant que telle avec les speakers, avec les talks, les sujets intéressants à avoir, mais c'est aussi le fait de se retrouver, de discuter de projets qu'on a ensemble, de gens qui travaillent dans la sécurité, qui ne se sont jamais vus physiquement. Et ça, c'est la chose qu'on voit le plus souvent à la conférence. C'est des gens qui se retrouvent ensemble et qui, en fait, peuvent se rencontrer physiquement pour la première fois, et ce qui permet de générer en fait aussi bien des amitiés, mais aussi de nouveaux projets de sécurité.
Alors, est-ce que il y a chaque année une thématique particulière ? Comment est-ce que ça se passe ?
Alors, on essaie d'être assez diversifié pour un peu satisfaire tout le monde. On a des grosses thématiques, on va dire des fils conducteurs. Cette année, par exemple, le fil conducteur était l'Internet des objets, les IoT, enfin, pas mal de choses dans ce cadre-là. Donc, on a eu un sujet, par exemple, sur le pacemaker. Ça, c'est un sujet assez intéressant. Et l'historique de celle qui est venue présenter ça, c'est Marimo, qui vient de Norvège. Et je l'ai rencontrée il y a plusieurs années à plusieurs conférences, puisqu'elle était responsable au CERT norvégien. Et lors de discussions informelles, elle m'a dit qu'elle avait un pacemaker et elle s'est rendue compte que lors de la première review de son pacemaker par un médecin, bah, c'était contrôlé par Windows XP. Donc elle a eu un peu froid dans le dos. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, mais pourquoi pas faire un keynote ? Et donc ça a germé comme une idée. En fait, on a eu ces discussions-là à First à Berlin l'année passée. Et du coup elle a passé le cap. Et bon, chapeau pour elle, puisque c'était quand même la première fois qu'elle a parlé d'une chose aussi personnelle dans une conférence sécurité. Bon, maintenant, au niveau Internet des objets, on a eu pas mal de sujets. On a eu des conférences sur des objets, on va dire, moins standards, comme des sextoys, par exemple, mais qui sont quand même connectés à Internet, qui posent des problèmes de sécurité. On a eu des objets qui sont plus liés, bien sûr, au secteur industriel. Et donc, ça, c'était vraiment un fil conducteur. Mais on essaie toujours de garder aussi un certain équilibre entre des gens qui sont plus confirmés au niveau sécurité, mais aussi des présentations qui sont peut-être nouvelles. Et donc, on laisse une grosse place aux Lightning Talks, aux présentations éclairs. On veut en avoir le maximum possible. Donc, chaque jour, on fait des sessions éclairs. Et là-bas, souvent, il arrive que l'année suivante, les présentateurs reviennent avec un nouveau projet ou un nouveau sujet après avoir fait une présentation éclair à Aculi l'année précédente.
Mais en étant sponsorisé, initié par un CSIRT, un CERT, il n'y a pas nécessité d'avoir une orientation vers la gestion d'incidents, ce genre de choses?
Alors, on a une grosse liberté, et c'est un peu historique, en fait. Au départ, on a fait la conférence, et c'est toujours, on est toujours les deux mêmes fondateurs, donc il y a Fred Arvogast et moi-même, qui avons créé la conférence. Et on a toujours, en fait, suivi la conférence à titre personnel. Donc, c'est dans une ASBL, donc c'est une sorte de loi 1901 au Luxembourg, qui est, en fait, le porte-drapeau de la conférence et qui maintient la conférence. Et derrière, on a des soutiens, et bien sûr, bah, le CERT me permet de travailler avec toute l'équipe du CERT sur le projet, mais on a une entière liberté sur les sujets. En effet, la réponse sur incident, c'est important, mais on essaie de couvrir le maximum de sujets de sécurité informatique.
Alors, quelles sont les conférences qui ont marqué cette occurrence?
Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je crois qu'il y en a une qui a vraiment fait le buzz, en tout cas, ou qui a choqué pas mal de gens, même des professionnels de la sécurité informatique, de Riverser, qui se sont rendus compte de vulnérabilités qui étaient très théoriques, mais qui ont été démontrées de façon pragmatique. Et une, c'est l'exploitation des KVM, donc des switches vidéo et clavier. Et donc là, on a une équipe israélienne qui nous a montré une exploitation en direct de deux machines qui sont complètement airgapées, qui sont connectées sur aucun réseau commun, mais leur seul point commun, c'est d'être connectées sur un KVM. Et le présentateur nous a montrer en fait une exploitation en direct en utilisant simplement un KVM. Et on a vu que bah, en fait le KVM est souvent peut-être sous-estimé au niveau sécurité. On a eu vraiment beaucoup de retours sur celle-là parce que beaucoup de gens ont regardé leur KVM de façon différente maintenant. Donc ils ont peut-être des fois un peu froid dans le dos quand ils rentrent dans leur data center et qu'ils ouvrent la porte du rack. Donc c'était une présentation qui a pas mal impressionné. Il y en a aussi.
Pour les auditeurs, pour certains auditeurs, on va préciser ce que c'est qu'un KVM.
Alors, un KVM, c'est l'outil que vous allez utiliser, par exemple, quand vous avez pas mal de serveurs et que vous voulez avoir uniquement un clavier et un écran, ou une souris aussi partagée. Ça vous permet, en fait, de commuter entre différents équipements et d'avoir, en fait, une vision sur tous vos équipements en utilisant uniquement un seul clavier et un seul écran.
C'est clairement un équipement autonome, donc un clavier, un écran, une souris, qui a son propre firmware ou vie interne, qui permet d'avoir un des ports sur tous les serveurs qui ont été configurés, quoi.
Et donc l'exploitation de la vulnérabilité permettait à un attaquant de faire quoi?
Alors, c'est de transformer le KVM en plusieurs choses. Déjà en devenant un vecteur d'infection. Donc, ça veut dire qu'en connectant la machine, en fait, indirectement, si le firmware est modifié, l'attaquant peut installer directement du malware sur la machine. Je suppose que plusieurs personnes connaissent les modèles, comme le Social Engineering Toolkit. Vous avez une clé USB avec TeenC USB où vous pouvez simplement entrer la clé et vont faire des commandes, ouvrir un command prompt, lancer le browser, télécharger un binaire, l'exécuter. Ben, c'est exactement le même modèle, mais le modèle ici n'est pas avec une clé USB. Le modèle est ici avec le KVM lui-même qui devient le vecteur d'infection. Le pire de l'histoire, c'est que ici le firmware est complètement modifié et comme le KVM est designé pour loguer tout ce qui est clavier, etc. Ben, on a toutes les possibilités de keylogging, etc., qui sont directement dans l'équipement.
Mais là, c'était assez énorme comme conférence. Franchement, en plus, vu l'équipe, c'était une conférence assez intéressante. Enfin, je le
Mais
point
là,
d'or, peut-être. De...
le KVM, il est attaqué uniquement via un serveur qui est connecté à lui.
Alors, au point de départ, il y a deux choses, et c'est là la technique ici qui était présentée, c'est qu'il faut avoir un accès physique, en effet, au KVM. La mise à jour du KVM se fait en quelques secondes. Donc, quelqu'un qui a accès à un rack et au KVM peut installer la mise à jour. Donc, le KVM reboot et a le firmware malveillant. Donc, en effet, le prérequis pour
Ok,
ce genre d'attaque,
donc on
c'est
est
d'avoir un accès.
d'accord. Eh ben, mais ça reste intéressant parce que je laisse imaginer aux auditeurs le nombre d'équipements dont toute la sécurité repose sur le firmware et sur lesquels, par construction, on a accès physique et donc sur lesquels on peut tout à fait imaginer une mise à jour avec un firmware modifié de manière à complètement changer le comportement de l'appareil qu'on a en face de soi. Finalement, ils ont fait ça sur un KVM, Mais en tout cas, j'ai déjà des idées en tête d'autres types d'appareils sur lesquels on pourrait reproduire ce type d'attaque. La difficulté, c'est de reprogrammer le firmware par rapport à des composants et des processeurs qui sont parfois pas du tout connus sur le marché.
Et ça a été le challenge en fait. Les présentateurs ont montré en fait ce qui a été difficile pour eux, c'était de comprendre le firmware au départ. Ils sont retrouvés devant un processeur en fait assez simple. C'est un 8051 de chez Intel, donc c'est quand même pas un processeur récent, mais c'est un processeur qui fonctionne assez bien. Et ils ont dû comprendre comment le firmware fonctionnait et comment le code était là. Donc c'est vraiment la partie la plus difficile. Mais après, quand ils ont bien compris et en fait ils ont vu que la logique du programme derrière est assez simple, ils ont pu modifier. Donc, c'est souvent fait le point d'entrée. Donc, c'est le point de départ pour comprendre comment un firmware fonctionne, qui est souvent le plus difficile. Mais lorsqu'on maîtrise, déjà par exemple, si on sait quel PLD est connecté, quel est le contrôleur qui va être utilisé, etc., ça facilite pas mal l'attaquant. Mais c'est vraiment le tout début qui en effet qui pose problème. Mais en effet, l'environnement d'équipement connecté autour des serveurs devient de plus en plus grand. Donc, avoir des équipements qui contiennent des firmwares dont on n'a pas le contrôle sont de plus en plus importants. On peut imaginer qu'il y a plus qu'un seul KVM, il y a aussi des KVM qui sont directement connectés avec une prise Ethernet derrière, ou alors qui sont simplement des réplicateurs pour la partie vidéo. Ceux-là aussi sont pas encore fort analysés, mais c'est aussi un potentiel intéressant au niveau surface d'attaque.
Mais ce qu'il faut attaquer, c'est le fabricant chinois. Tu attaques le fabricant chinois et tu fais en sorte que tous les KVM qui sortent de la chaîne, ils aient ton firmware à toi et pas le firmware original.
Oui, alors ça, c'est aussi une autre technique d'attaque. Ce que l'équipe israélienne expliquait, c'est bien sûr l'attaque sur le delivery, ce qui a été démontré dans différents cas. Hein, le cas bien connu de la NSA qui intercepte des routeurs Cisco, qui modifie le boot prompt ou le firmware, sont des techniques qui sont déjà utilisées. Donc les techniques de KVM sont peut-être déjà utilisées activement. Peut-être que actuellement, beaucoup de victimes ne le savent pas.
Alors, quelles sont les autres conférences qui ont été marquantes?
Alors, il y a eu pas mal de choses sur le reversing, comme d'habitude. C'est un sujet qu'on aime assez bien à la conférence. Il y a eu une conférence intéressante d'un autre Israélien, c'est-à-dire qu'ils ont souvent des équipes qui sont assez efficaces. C'est Shift. C'est à sa deuxième présentation et sa toute première présentation justement l'année passée à Kellu sur le White Box Crypto. Cette année, il a fait sur la partie plutôt automatisation de tout ce qui est unpacking. Et ça, c'est vraiment un problème traditionnel quand vous allez reverser un malware. C'est lorsqu'ils sont paquets, vous devez aussi avoir un point de départ, et c'est toujours très difficile, et donc il y a une partie où vous devez faire manuellement. Donc
Alors,
il a démontré quelques techniques d'unpacking.
Alexandre,
Oui.
justement, alors est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est le fait de packer un malware?
Alors, pour complexifier la détection ou pour complexifier l'analyse d'un programme malveillant, les attaquants auront tendance à rendre le code offusqué ou difficile à comprendre. Et une des techniques à utiliser, par exemple, c'est de compacter le malware, donc de compresser une partie du malware. Et là, il y a plein de techniques de compression différentes. Et donc, l'idée ici des attaquants, c'est bien sûr de mettre plusieurs couches de compression, par exemple, d'offuscation, et ça va prendre plus de temps à pouvoir analyser le malware. Et ce chercheur, en fait, en sécurité, son objectif était justement d'automatiser cette partie-là. Donc, d'automatiser la partie de décompression, de déobfuscation du malware. Donc, il a montré pas mal de pistes. Et c'est assez intéressant parce qu'il a quand même quelques bons résultats. Bon, bien sûr, c'est une course contre la montre, hein, puisque les attaquants vont trouver d'autres techniques. Mais il est assez intelligent pour avoir trouvé quelques techniques qui sont nouvelles. Il a comparé avec d'autres outils et d'autres techniques qui sont déjà utilisées. C'était une présentation assez intéressante. Et je crois que c'est un point de départ pour d'autres chercheurs qui vont peut-être créer d'autres nouvelles techniques pour automatiser cette partie-là. Ça me rappelle une autre présentation qu'on a eue il y a quelques années à Akelu, qui utilisait un outil qui s'appelle Pintool, qui est assez connu pour justement aussi faire de l'introspection et de l'analyse de malware de façon dynamique, en par exemple analysant directement les fonctions dans le malware. Et là, ici, on voit qu'il a utilisé certaines techniques qui sont assez simples, mais qui sont assez efficaces. Alors, dans les autres présentations, on a eu pas mal de sujets. On a eu des sujets sur ce qu'on appelle les VDI, hein, donc c'est tous les terminaux virtuels. Ce qui est très intéressant dans cette présentation-là, parce que bon, on a aussi une règle à Akelu, c'est tout ce qui est Responsibility Vulnerability Disclosure, donc tout ce qui est disclosure de vulnérabilité. Si on reçoit une présentation, on demande au speaker de notifier le vendeur dans les 60 jours avant la conférence pour qu'il puisse y avoir un patch et qu'il puisse le fixer. Donc là, ils ont revu plusieurs produits et ils ont vu un produit qui était assez intéressant, VDI, qui avait pas mal de vulnérabilités, qui est assez fondamentale. Et le fabricant a quand même fixé pas mal de ces bugs. Donc on voit une certaine évolution. Je me souviens il y a quelques années où on a eu des emails ou des échanges et des documents avec des avocats qui nous demandaient de ne pas faire la présentation ou qui demandaient au speaker de ne pas participer. Ici, je vois une tendance où ça se devient plus simple. Je ne dis pas que ça c'est très simple, mais c'est plus simple qu'avant d'avoir des contacts avec les vendeurs.
Ah, moi, j'ai le sentiment que c'est beaucoup moins simple qu'avant. Aujourd'hui, les vulnérabilités, elles sont commercialisées, elles sont vendues. Si elles sont exposées dans une conférence, c'est qu'elles valent déjà plus rien.
Alors, le marché de la vulnérabilité en tant que tel, c'est aussi un autre paramètre, mais ici, je parle vraiment de disclosure vis-à-vis du vendeur. Si je prends la question d'exploitation et de présentation de gens qui veulent vendre leur vulnérabilité, ils auront tendance à éviter d'aller à des conférences et de présenter leur vulnérabilité.
Ils n'iront pas aux conférences, ça c'est sûr.
Oui. Maintenant, au niveau de la conférence, on a déjà eu pas mal de discussions sur les vulnérabilités, sur le commerce des vulnérabilités. Actuellement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir que le full disclosure en lui-même est peut-être le meilleur moyen de casser un marché. Maintenant, bon, pratiquement, je sais que ça pose certains problèmes pratiques avec l'exploitation, enfin, la fixe des exploits, etc. Mais d'un autre côté, d'avoir en parallèle certaines personnes qui gardent une approche full disclosure, je crois que Google avait un peu dans ce sens-là, casse un peu le marché, qui voudrait que les vulnérabilités restent encore sous le manteau pendant quelques mois pour être vendues à des prix assez excessifs aussi.
Alors, Ad.lu, c'est des conférences, mais c'est aussi des workshops. Et par exemple, Guillaume, tu as réalisé un workshop?
Ah bah oui, pas qu'un, enfin si, le même d'ailleurs, mais voilà, les trois jours quoi, mardi, mercredi, jeudi, 9h30, 11h30, voire midi, pas mal de monde, plein à chaque fois, ouais, c'est ça aussi, Hack.lu quoi, c'est pas, enfin moi ça fait pas mal d'années que j'y vais, c'est, pour moi, bon je suis un peu old school, mais c'est vraiment une conférence, Alexandre en parlait tout à l'heure, c'est très, entre guillemets, familial, sympa, il y a pas trop de monde, c'est vraiment une ambiance quoi, c'est, et donc ouais, workshop pas mal, il y a eu pas mal de workshops, Radar 2 aussi là qui a bien marché, j'ai eu des bons échos, des copains qui y sont allés.
Alors Radar 2, pour ceux qui ne connaissent pas, de quoi il s'agit?
Moi je laisse Alexandre en parler, j'ai mon idée, mais
alors Radar 2, si on peut le décrire de différentes façons. Alors je vais prendre la partie amusante. Imaginez, vous avez un frigo chez vous, vous voulez reverser le firmware de votre frigo, ben sûrement Radar 2 est capable de le faire. Donc en gros, Radar 2, c'est un framework pour pouvoir faire du reversing. Les auteurs de Radar 2 sont, allez, je vais me permettre, mais ils le reconnaissent, sont vraiment une bande de cinglés.
Oui.
Ils supportent, je crois, tous les formats imaginables.
En gros, Radar 2, si vous voulez, c'est comme dirait mon collègue, c'est le VI de IDEA Pro, quoi.
Juste pour l'anecdote, ils ont introduit récemment un output pour pouvoir parser les DNA, donc l'ADN, et donc vous avez un output pour les ADN aussi, donc vous pouvez reverser les ADN, et vous avez aussi tout ce qui est interprétation ADN, donc ça reste un programme d'ordinateur, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment une bande de malades. Bon, blague à part, Radar 2, j'en suis un utilisateur depuis quelques temps. Je l'utilisais au départ et c'était super instable, c'était assez catastrophique. Ça marchait, il y avait plein de fonctionnalités super, mais ça crachait, etc. Depuis peu, ça devient un concurrent sérieux à IDEA Pro. Surtout que depuis, il y a un outil qui s'appelle Radeco, qui a été développé par un étudiant écrit en Rust. Alors Radeco, c'est un décompilateur qui marche pas trop mal, mais qui permet aussi de faire des représentations, ce qu'on appelle intermédiaires de langage. Donc ça permet de comparer, par exemple, du malware avec un langage intermédiaire. Quand vous avez beaucoup de samples à comparer, ben, ça utilise en fait le même langage. Quand vous décompilez votre programme, ben, vous allez avoir un langage qui est plus ou moins commun, et ça vous permet de comparer ce langage. Maintenant, Radar a vraiment, vraiment, vraiment bien évolué. Et honnêtement, ça devient un concurrent sérieux à IDA Pro. Et on l'utilise de mieux en mieux, je dirais. Et alors, les développeurs deviennent de plus en plus sérieux. Même si au départ, j'avais l'impression que c'était parti d'une blague, c'est devenu vraiment un excellent outil de reversing.
D'autres workshops?
Alors, il y a pas mal de workshops, mais il y a aussi une chose qui est un peu inhérente à Kelu, c'est le CTF, le Capture the Flag. Depuis les 11 éditions qu'on a fait, depuis la toute première édition, les CTF ont toujours fait partie de Akelu. Le premier CTF, comme je disais, c'était 4 personnes, 4 équipes. Donc 4 équipes, si je me souviens bien, dans une des équipes, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait Thorsten Holz, qui était un des joueurs de l'université de Bochum. Il y avait d'autres dedans, et à l'époque, on avait un serveur avec quelques challenges, c'était vraiment minimaliste. Alors aujourd'hui, c'est un CTF qui est fait par l'équipe de Fluxfinger. Alors Fluxfinger, ils sont assez connus comme joueurs, mais ils sont aussi connus pour faire des challenges. Et depuis plusieurs années, ils font avec nous le CTF pour Akelu. C'est une équipe assez dynamique. Et c'est un des CTF qui est sûrement les mieux cotés avec celui de Defcon. Donc c'est un CTF Géopardy. Donc Géopardy, ça veut dire quoi? Les utilisateurs... les joueurs peuvent choisir un peu les sujets qu'ils veulent, de la crypto, des jeux web et des challenges divers et variés. Bon, il y a quelques années, par exemple, c'était il fallait boire 50 centilitres de bière le plus rapidement possible. Donc des fois, ça sort un peu du cadre de la sécurité informatique. Mais ils ont cette année, en fait, ils ont fait un paquet challenge. On a eu plus de, je crois si je me rappelle bien, plus de 300 équipes enregistrées. Et il y a eu 258 équipes qui ont au moins résolu un des challenges. Et les équipes sont des équipes de 1 à 20 ou 24 personnes. Cette année, c'est encore les Russes qui ont gagné. Donc c'est une des équipes russes qui a gagné. Il y a pas mal d'autres équipes qui sont bien placées. Alors il y a une petite différence pour le CTF à Akelu, c'est-à-dire que si vous avez au moins une personne de l'équipe qui est sur site, vous êtes éligible pour les prix. Et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens, par exemple les Russes cette année ont envoyé 2 personnes localement, ils étaient sûrs d'avoir des prix, en effet ils ont pas mal gagné, mais les challenges sont toujours super intéressants. Pour les curieux, je vous invite à faire Akelu write-up sur Google et vous allez trouver tous les write-up de différents CTF, il y en a vraiment des très très amusants. Juste un pour l'amusement, il y a, pour ceux qui aiment bien Perle, il y avait un challenge qu'il fallait faire une sorte de modification de chaîne de caractères avec une expression régulière, et il fallait la faire en moins de 36 caractères. Et il y a eu pas mal de gens qui ont trouvé des solutions, et dont des solutions que Fluxfinger ne s'attendait pas du tout. Donc c'était vraiment vraiment amusant. Donc le CTF est d'assez bonne facture et de très bonne qualité, mais l'avantage c'est que les gens apprennent de nouvelles choses, même ceux qui créent les CTF. Donc c'est toujours bon signe.
Conformément à la législation en vigueur, nous vous rappelons qu'il convient de boire avec modération.
C'est la bonne remarque.
Et les soirées, il y avait un social event, des soirées intéressantes?
Alors ça c'est aussi, il y a toutes les soirées, on va dire, parallèles et non officielles de chaque groupe. Je suis sûr que les équipes de Radar, les équipes de Diatim ont fait des soirées parallèles et toutes ne sont pas publiques. Mais dans les activités publiques de Akelu, il y a différentes soirées qui sont officielles. Donc il y a bien sûr le social event qui s'est déroulé le mardi soir, qui était sponsorisé par le ministère de l'économie. Donc les ministères sont intéressés par la sécurité informatique.
Et ils sponsorisent la boisson alors?
Ça reste un social event bon enfant, donc on le fait à l'hôtel avec les personnes, etc. Alors ce qui s'est passé, et il y a toujours des petits amusements parallèles, on va dire. Ça a commencé par un PowerPoint karaoké. Donc officiellement, il y avait un PowerPoint karaoké le jeudi, mais il y a eu une sorte de pré-PowerPoint karaoké le mardi soir. Donc comme le social event se faisait dans l'hôtel, on avait l'accès aux salles de présentation. Et si je me souviens bien, vers 20h, 21h, on a commencé à faire des PowerPoint karaoké. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le PowerPoint karaoké, c'est tout simple. Vous allez recevoir un PowerPoint au hasard, donc vous ne connaissez pas le sujet. Donc, ça va de la construction des maisons en bambou jusqu'à la vente de vêtements ou de sex toys. qui est un sujet récurrent à Kélu cette année. Et là, vous devez présenter. Donc, c'est souvent des présentations assez difficiles. Je crois que cette année, il y a quelqu'un qui a eu une présentation sur la vaccination des poulets en industrie. Sujet super intéressant et très sexy aussi. Mais qui se sont bien déroulés, donc ça c'est très très bien, c'est super amusant. Il y a souvent des gens qui se découvrent des talents d'orateur ou de théâtral, donc ça c'est amusant. Et on l'a refait en fait officiellement le jeudi, donc c'est assez marrant parce qu'il y a quelques thèmes qui sont ressortis sur les bambous et sur les voitures VW et les problèmes diesel.
Ah, sympa ce côté ludique là.
On aime assez bien le côté ludique. Bon, cette année, on n'a pas fait de workshop ludique, mais les années précédentes, on a fait différents types de workshops. Par exemple, fabrication de bière. On
a fait un workshop. Je me rappelle de ce workshop-là, c'était sympa. Fabriquer sa bière. Do it yourself. Là. C'était vraiment bien.
Il y avait aussi un autre avec la bière, c'était beer testing and chocolate. Donc, c'était,
Ah oui, ça c'était bien aussi.
C'était sympathique aussi. Mais donc, on essaie de garder ça, de garder toujours le côté bon enfant, parce que avec la sécurité informatique, rester trop sérieux, on peut vite déprimer rapidement. C'est pas un sujet amusant. On peut devenir ou paranoïaque ou dépressif, ou les deux ensemble, c'est encore pire. Mais en fait, ici, on essaie de garder un petit côté amusant, et donc je crois qu'on l'a bien fait cette année, et je crois que les années prochaines, on va essayer de faire ça. Donc on va garder le thème bambou, le fameux bambou va devenir un mot-clé à mon avis pour l'année prochaine. Donc il y aura sûrement des surprises.
Donc en plus des workshops, des confs, est-ce qu'il y a eu des événements ou des ateliers un peu spécifiques ?
Ben en fait, on s'est rendu compte il y a quelques années que la communauté de sécurité évoluait et surtout vieillissait. Donc il y a de plus en plus de chercheurs en sécurité qui viennent avec leurs familles, leurs enfants. Et donc on s'était dit que ça serait bien d'avoir des activités avec les enfants. Alors, les années précédentes, on a eu des code clubs, donc c'est programmation pour les enfants, donc souvent des enfants de moins de 12 ans. Et cette année, on s'est dit on va faire une crypto-partie pour les enfants. Donc leur apprendre la cryptographie et s'amuser avec la cryptographie. Alors, durant les différents workshops pour les enfants, c'était une session de 2 heures. C'était, par exemple, il y a eu un coloriage en AES ECB. Alors, pour ceux qui le savent, ECB, c'est un mode cryptographique qui est pas très sûr. Donc, lorsque vous chiffrez, en fait, vous allez retrouver des empreintes ou des similitudes dans le code original ou le texte clair. Et donc, il y a un chercheur en sécurité qui s'est amusé à faire des tableaux de coloriage. Quand on recolorie, en fait, le code ASCII d'une image TIFF, ben, on retrouve l'image initiale, même si ça avait été chiffré. Donc là, c'est vraiment les enfants découvrent simplement avec du coloriage que les modes de chiffrement peuvent être très importants pour chiffrer correctement les données. Alors, il y a eu plein d'autres thématiques, mais je crois que les enfants sont bien amusés. On l'avait fait en anglais. Il y a des années où on fait en 3 ou 4 langues. Au Luxembourg, c'est pas un souci. Mais cette année, c'était assez compliqué pour la partie cryptographique de le faire en plusieurs langues. On compte le réitérer l'année prochaine aussi et de le faire aussi en d'autres langues.
Bon, eh bien, on vous invite à vous rendre l'année prochaine à cette conférence, donc hack.lu. Alexandre, un grand merci pour avoir participé à cet enregistrement.
Merci, avec plaisir.
On espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.